j'aime beaucoup cette liberté. Cette liberté de la part du chassid, une sorte d'engagement que le tzaddik, le rabbi, ne peut pas refuser. Le chassid peut refuser d'être chassid. Le maître ne peut pas dire au disciple ou à l'adepte, toi, tu es mon disciple. Mais le chassid peut dire au rabbi, toi, tu es mon maître. Et dès qu'il le dit, dès qu'il se soumet à sa discipline, à son autorité, le lien est fait et il reste pour toujours vivant. Donc, il y a dans le chassidisme des liens de maître à disciple qui sont multiples et variés. Il y a des liens, par exemple, des liens aveugles de confiance, où tout simplement le chassid vient demander conseil, ou vient se raconter, vient écouter, et il accepte le rabbi tel quel. Chaque parole est une parole de vérité, chaque geste est plein de signification, et jamais il ne doute du rabbi. Il y a aussi, bien sûr, des liens de maître à disciple au niveau de la connaissance. Le disciple sait que le rabbi sait plus que lui, donc il vient recevoir ce qui est dans la lignée, dans la tradition du judaïsme. Et puis, il y a aussi un disciple qui vient au rabbi pour devenir rabbi. Il vient apprendre l'art de devenir rabbi. Comment fonder une école? Et puis, il y a des disciples qui viennent baigner dans le mystère. Le rabbi, c'est tout. Pour le chassid, le rabbi est tout, et un tout. Il ne peut pas accepter une partie du rabbi. Il accepte en tant qu'entité, en tant qu'unité, en tant qu'être vivant, avec tous ses complexes, toutes ses contradictions, et toute la variété de sentiments et de pensées et d'impulsions qui font de l'homme qui soit en même temps maître et disciple. Il y a même chez, par exemple, les adeptes de Bratislava, il y a un phénomène curieux et prenant. Le rabbi de Bratislava est mort il y a deux siècles à peu près, et pourtant pour ses adeptes, pour ses disciples, il reste vivant. Il se considère toujours ses disciples et il parle de lui au présent. Il ne faut en fait que lire ces histoires. C'est un très grand conteur. Je crois que nous allons l'évoquer plus tard quand nous aborderons le thème du conte racidique, donc le rôle que le conte a joué dans l'épanouissement du mouvement. Et vous verrez alors que c'est un très grand conteur. C'était vraiment le précurseur de Kafka. Quand il est mort, il a dit simplement à ses disciples, « Pourquoi pleurez-vous? Mais je ne vous quitte pas. » Et ils ont pris cette parole à la lettre. Alors, il ne les a jamais quittés. C'est pourquoi on les appelle les chassidites morts, car ils croient encore dans un maître qui est mort. Et eux, d'habitude, pour se défendre, ils disent « Mieux vaut croire dans un maître mort qui ne l'est pas, que dans un maître vivant qui est mort. »
On sait que la première rencontre du Maguide de Meseritch et du Baal Shem Tov fut un échec. Pour le visiteur qui n'espérait guère, elle fut pire que décevante. Une absence, un néant. Le Becht lui raconta une histoire abracadabrante de cochers et de chevaux, similaire à celle qu'il narra à Yaakov Yosef de Polnois. C'est tout. Au bavardage du Baal Shem, le Maguide, torturé de douleur, opposa un mutisme dépité. « Je ne suis pas venu de si loin pour écouter des histoires d'animaux, » pensa-t-il. N'arrivant pas à communiquer, les deux hommes semblaient n'avoir rien en commun. Amer d'avoir gaspillé son temps, le Maguide retourna à l'auberge et se prépara à rentrer chez lui. La carriole était déjà attelée. Au dernier moment, un émissaire vint l'informer qu'il était attendu chez le Becht. Il décida de retarder son retour. Peut-être pensait-il qu'après tout, ayant fait ce long chemin, il pouvait bien accorder au guérisseur une seconde chance. Il était minuit. Le Becht lui tendit le livre de la splendeur, le Zohar. « Tu sais lire ?»« Oui, je sais. »« Eh bien, lis. » Le Maguide s'exécuta. « Ce n'est pas comme ça qu'on lit, » interrompit le Becht. « Certes, tu sais déchiffrer les signes, mais ton savoir manque d'âme. » Ce fut le tournant. Du coup, la pièce s'illumina. Le Maguide se retrouva au Sinaï. Il vit la flamme et comprit à quel point elle lui faisait défaut. Il comprit aussi que le Becht était le seul homme capable de le bouleverser, de l'élever. Il devint son disciple son témoin, son plus éloquent apôtre.
Très souvent, il arrive un instant où le chassid vient, voit, et il y a quelque chose qui se passe dans le contact, presque physique. Il se touche, il se serre la main, il se regarde. Et ce contact est fait, et alors le chassid est chassid et le rabbi est rabbi. Exemple, deux chassidim viennent de très très loin pour rencontrer le grand voyant de Lublin. Le célèbre voyant de Lublin avait, paraît-il, des dons prophétiques, des pouvoirs extraordinaires, et on venait de partout pour le voir et être vu de lui. Donc deux chassidim viennent le voir pour la première fois. L'un d'eux est admis auprès du voyant de Lublin. Il sort 10 minutes plus tard, il est bouleversé. Son ami, qui attend dehors, dit « Alors, tu l'as vu ?» Il dit « Oui, je l'ai vu. » « Alors ?» Il dit « Je ne peux pas te dire, c'est extraordinaire. Je ne peux pas te dire, c'est extraordinaire. » Mais comment est-ce qu'il a l'air? Il a l'air. Et le premier chassid n'arrive même pas à trouver une métaphore. Il dit, il a l'air d'un lion en colère. Alors il dit, d'un lion en colère. As-tu jamais vu un lion? Il dit, non. As-tu donc vu un lion en colère? Il dit, certainement, non. Alors comment sais-tu de quoi un lion en colère a l'air? Il dit, avant je ne savais pas, maintenant je sais.
Comme le Becht, le Maguide de Meseritch savait galvaniser, susciter des dévouements. Il savait qui attirer, qui encourager et qui écarter. Sa puissance intuitive était telle qu'il élevait toutes les attentes, comblait tous les manques. On dit que, pareil au Becht, il était en mesure de décrire un artisan par le simple examen d'un objet qu'il avait façonné. Tous les témoignages concordent. Le Maguide était passé maître dans l'art de s'attacher les hommes en rompant leur équilibre. Sa méthode, la surprise, le choc. Ses paroles étaient aussi inattendues que ses silences.
Dans le chassidisme. Il y a des choses très très belles sur le silence, parce que le contact peut être fait par le silence, pas seulement par la parole. Parfois c'est par la parole, parfois il y a un mot qui accroche, parce que c'est précisément le mot qui a manqué à ce disciple, un mot que le disciple attendait. Le Maguide de Meseritch est devenu disciple du Baal Shem Tov à cause de mots. Il est venu le voir la nuit, à minuit, et le Baal Shem Tov lui a demandé « Est-ce que tu connais le Zohar ?» Il dit « Oui ». Alors il lui a dit « Bon, étudions-le ensemble ». Et tout d'un coup, dit le Maguide de Meseritch, « Je me suis rendu compte qu'avant, je ne savais rien, parce que ma connaissance était dépourvue d'âme. Et tout d'un coup, j'ai compris que maintenant, avec le Baal Shem Tov, ma connaissance aura une âme. » Donc c'est le mot âme qui a accroché le Maguide de Meseritch, qui avant était un rationaliste traditionnel et traditionnaliste.
Philippe Wiesel, pourquoi tout le monde n'est pas rabbi?
Là n'est pas la question, Philippe Nemo, la question pourquoi tout le monde ne serait-il pas chassid. Si moi je pouvais choisir, je choisirais certainement le rôle de chassid plutôt que celui de rabbi. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un maître. J'aimerais être disciple. J'aime toujours recevoir. C'est l'art de recevoir qui m'accroche, qui m'enchante, qui m'attire.
À en croire une tradition hassidique, Rabbi Pinhas, son disciple, aurait appris 3 choses du Baal Shem. On ne nous dit pas lesquelles. On ajoute que, en échange, Rabbi Pinhas de Koretz aurait enseigné au Baal Shem 3 choses. Elles étaient peut-être les mêmes.
Bien sûr, la foi, c'est pas seulement la foi. c'est de savoir que quelqu'un peut me donner ce dont j'ai besoin. Or, moi, je sais que j'ai très peu à donner. Nous sommes le peuple qui a reçu la loi. Il y a une fête, la Pentecôte, c'est la fête de Kabbalat Torah et Matan Torah. Matan Torah, Dieu a donné la loi une fois. Nous devons la recevoir tous les jours. Et alors, quand vous étudiez le Talmud, vous verrez que ça se passe comme ça. Moïse a reçu la Torah et l'a transmis à Josué, et Josué l'a transmis. Et tout d'un coup, vous verrez que la Kabbalah, qui veut dire recevoir, c'est cela. Nous avons reçu, nous recevons encore. Donc un chassid, c'est celui qui reçoit du maître. Et j'envie les chassidim encore aujourd'hui qui peuvent recevoir. Donc dans le chassidisme, c'est le disciple, en vérité, qui est beau.
Le rabbi de Kotzk, lui, au contraire des autres rabbis chassidiques, ne voulait pas de disciples.
Il ne voulait pas de ses chassidiques. Pendant 20 ans, il a vécu solitaire. Le maître voulait être seul. Il voulait être seul avec 10 élus. Lui, c'était vraiment le sage nietzschéen, si on peut dire. C'était vraiment le sage oriental, mais seul. Il voulait avoir une équipe à lui. Il a dit, si moi je pouvais avoir seulement 10 disciples, pour monter, dit-il, sur le toit du monde et crier que Dieu est Dieu, je pourrais tout changer.
Il les a eus ?
Non, il ne les a pas eus. C'est pourquoi c'était un personnage tragique. Un grand philosophe juif, Abraham Joshua Heschel, le comparait à Kierkegaard. Et il y a eu, en effet, une sorte de comparaison entre les deux, de même qu'il y a eu entre Kafka et Rabbi Nachman. Il y avait eu ce doute, il ne faisait que douter. Il ne cherchait qu'une seule chose, c'est la vérité, mais rien de moins. Contre toutes les compromissions, contre tous les compromis, toutes les concessions. Et plus il chassait son monde, plus le monde grandissait. Et parfois, il y a eu des spectacles étonnants. Parce que les meilleurs fils du peuple juif en Europe de l'Est quittaient femme et foyer et parents et venaient voir et être avec le rabbi. Et parfois, il y avait des démonstrations, mais de vraies manifestations de femmes, belle-mère, mère, épouse, qui venaient manifester devant les fenêtres et le palais du rabbi, le palais, c'est une petite cabane, du rabbi en criant, rendez-nous nos maris, rendez-nous nos fils, rendez-nous nos pères. Et lui, il lui disait, mais je vous le rends, je ne veux pas d'eux, vous ne voulez pas partir. Le rabbi, par définition, sait plus que les autres. Il a mal plus que les autres. Il souffre plus que les autres. Et aussi, il voit plus loin que les autres. Il voit avant les autres. Donc, bien sûr que sa solitude est plus profonde que celle des autres. Il sait, et son savoir lui fait mal. J'irai même très loin. Il sait qu'il ne peut pas aider. Alors que la communauté pense qu'il peut. C'est pourquoi beaucoup de rabbis étaient des faiseurs de miracles. Et je dois vous dire que moi, je n'ai pas aimé cela. Quand j'étais jeune, bien sûr, j'ai aimé. Quand j'étais gosse, bien sûr, j'étais convaincu que chaque rabbi est rabbi parce qu'il sait faire des miracles. Maintenant, ce côté-là m'intéresse beaucoup moins. Ce qui m'intéresse, c'est la grandeur humaine du rabbi. Et il sait, lui, il sait. Que le chassid en s'en allant restera aussi pauvre qu'avant. Le malade restera aussi malade qu'avant. Sauf une chose. Que le chassid en s'en allant aura l'impression juste que le rabbi a été touché par sa maladie, qu'il a été touché, concerné par sa misère. Donc que le chassid n'est pas seul. Résultat, le rabbi a cumulé en lui des centaines et des centaines de solitudes, de petites solitudes comme ça, mais y a-t-il de petites solitudes? Toutes sont grandes, toutes sont immenses, au niveau humain. Pour finalement être au bord du désespoir. Pour finalement être prêt à sombrer, ou à laisser sa raison sombrer, ou sa foi sombrer. Et alors, il y a eu le choix, ou bien protester contre Dieu, et certains l'ont fait, presque tous l'ont fait, ou bien ne rien dire, se taire, et laisser le silence envahir, et se laisser porter par ce silence, et payer le prix, qui est le prix souvent de la raison. La solitude reste immense, sans faille, parce que le rabbi peut aider, mais qui peut aider le rabbi? Que faire alors? Quand tous les jours le rabbi reçoit des chassidim, qu'est-ce qu'il entend? Il n'entend que des complaintes, il n'entend que des histoires de souffrance. Il y a le baron qui est antisémite, il y a le prince qui est davantage, il y a le loyer à payer, il y a la fille à marier, il y a l'enfant à guérir. Il y a tant de misère, il y a tant de souffrance, il y a tant de cauchemars, il y a tant de peine dans le monde, dans le cœur de chaque racine. Et le rabbi doit entendre ça, c'est sa fonction, c'est son rôle. Il doit écouter, toujours, et jusqu'au bout. Là, Dieu est-il de quelque secours, j'espère, pour le rabbi Kouri? Je sais que moi, je n'arrive pas à imaginer le rabbi acceptant tout cela au nom de Dieu. Moi, je l'imagine plutôt prenant tout cela et le jetant à la face de Dieu. Shabbat, d'habitude, était un jour bien sûr spécial, avec des visiteurs de marque. Le rabbi, d'habitude, prenait ses repas ensemble avec les chassidim, avec leurs disciples. Le repas le plus mystérieux, le plus mystique, le plus beau, c'est le troisième repas du Shabbat. Alors que le Shabbat s'en va, la reine de Shabbat s'en va, et le chassid ne veut pas qu'elle s'en aille. Alors, il essaie de la retenir. Et il y a l'obscurité dans la salle. On n'a pas le droit d'allumer. Et tous sont comme soudés autour du rabbi. Et tous, ensemble avec le rabbi, essayent de retenir le Shabbat par le chant, par la mémoire, par la beauté de cette mémoire. Chez nous, par exemple, à l'école que moi j'ai fréquenté, avec moi Rabbi, on chantait en yiddish un chant très beau qui disait « Denn ich wohl gehad keir, wollt ich in die Gassen gelaufen, und ich wohl geschrien keir, Shabbos, heiliger Shabbos. » Ce qui veut dire, si moi j'avais la force, je courais dans toutes les rues de la ville et je crierais à voix haute, toujours plus haute, Shabbat, Shabbat, Shabbat sacré et saint. Et chez nous on disait que tant qu'on chantait ce chant, le Shabbat restait. Et on chantait, on tirait d'habitude la dernière parole de Shabbat, Shabbat, pendant une minute ou deux, toujours pour garder le Shabbat. Et c'est le rabbi qui donne sens au chant, c'est le rabbi qui mène, c'est le rabbi qui donne sens à la vie. Un sens qui existait, qui préexistait peut-être à la vie, mais c'est grâce à lui que le sens a été dégagé, a été mis devant nos yeux.
La plupart de nos rabbis sont pauvres, mais il arrive que certains d'entre eux vivent comme des princes. C'est le cas de Rabbi Israël de Rijin.
Né en 1797, Israël de Rijin était l'enfant choyé du hassidisme et son dernier chef incontesté. Était-ce parce qu'il était l'arrière-petit-fils du grand maguide de Mezeritch? Il jouissait d'un statut spécial, privilégié. Intouchable, on ne lui connaissait pas d'ennemis, ni même d'adversaires. On l'aimait, on ne demandait qu'à l'aimer. On lui pardonnait tout, son goût de la solitude, son manque d'érudition, son orgueil. Enfant, il se comportait déjà en enfant gâté, en prince comblé d'honneur. J'avais 7 ans lorsque j'ai visité Vienne, dira-t-il. J'y fus reçu avec un tel éclat que depuis, rien ne peut plus m'impressionner. Seul le meilleur était assez bon pour lui. S'habillant avec élégance, il choisissait les costumes les plus chers. Il était beau et riche, et il aimait la beauté comme il aimait la richesse. Ce qu'il désirait, il l'obtenait. On lui satisfaisait tous ses caprices. Plus tard, il posséda un palais avec serviteurs, étables et économes. Sa synagogue pouvait abriter 3000 fidèles.
Il vivait dans un palais, il vivait comme un prince. Il ne se déplaçait jamais sans une escorte d'une centaine de personnes, avec sa cour, avec son orchestre, avec ses cuisiniers. Bon, c'était tout de même lié à une idée qu'il avait du judaïsme et du chassidisme. Chez lui, le rabbi personnifiait non seulement le maître, mais aussi la royauté que le maître doit avoir. On racontait un tas d'histoires, et on racontait par exemple qu'il portait des chaussures en or. Bon, tout ça, c'est un peu bête. Vraiment, peut-on se chausser des chaussures en or? Peut-on marcher des chaussures en or? Mais tout de même, la légende avait ses ailes, et la légende volait très loin. Alors les chassidim devaient trouver des excuses en disant, oui, les chaussures sont dorées d'en haut, mais il n'y a pas de semelle, donc ils marchent sur la neige, n'est-ce pas, nu-pied. La foi, c'est une foi d'enfant. Le rabbi ne peut rien faire de mal. Le rabbi sait tout, le rabbi regarde, le rabbi sent. Il sent ce que j'ai, il sent ce que je veux dire, il devine mon mystère. Et je vous dis, moi je cherche un rabbi, ça me manque.
Un jeune adepte du grand maguide de Meseritch épousa la fille d'un anti-acide virulent qui le força à choisir entre sa famille et son rabbi. Le gendre dut jurer qu'il ne retournerait plus à Meseritch. Mais au bout de quelques mois, de quelques années peut-être, malade de nostalgie, il succomba à son désir. Il alla retrouver ses compagnons et leur maître. À son retour, le beau-père l'emmena devant le rabbin local qui, ayant consulté le code et les ouvrages appropriés, prononça son jugement. Le beau-père avait raison. Le gendre, ayant renié son vœu, devait divorcer sur le champ. Le jeune acide, résigné, se retrouva du jour au lendemain dans la rue, sans moyens, sans appui, sans rien. Inconsolé, refusant toute nourriture, traînant d'asile en asile, il mourut peu après.
Eh bien, qu'il rappelle le régime, un jour le Messie arrivera, et le jeune homme portera plainte contre son beau-père. Et le Messie sera le juge. Le beau-père dira, moi, mais c'est pas ma faute. C'est le rabbi, tout de même, je suis allé chez le juge. On appellera le juge. Et le juge dira, eh bien moi, c'est pas ma faute, j'ai consulté le Shulchan Aruch. Et alors on consultera le Shulchan Aruch, et en effet, le Shulchan Aruch a dit ce qu'il fallait faire. Alors le rabbi d'origine a dit au jeune homme, écoute, il est vrai, le beau-père avait raison, et le juge avait raison, et le code avait raison, mais moi je suis venu pour ceux qui n'ont pas raison. Inquiétant, le Messie vient pour ceux qui n'ont pas raison. Il y a de ces paroles qui témoignent d'une vision intérieure de cet homme, quand il dit, n'est-ce pas, lorsque le Messie viendra, l'histoire et le fond de l'histoire n'auront rien en commun. L'homme et son visage ne se ressembleront pas. Il a dit aussi, lorsque le Messie viendra, la parabole et le sens de la parabole n'auront rien en commun. Très profond tout ça. Très profond tout ça. Donc on lui pardonne tout, même son pouvoir. Vous savez, dites le mot, les rapports entre le disciple et le maître. C'est pas nouveau dans le chassidisme. Dans le Talmud, c'était ainsi déjà. Et même dans la Bible, c'est ainsi. Joshua devant Moïse, Moïse devant Dieu, c'est quoi? Le grand compliment, c'est le disciple. Par exemple, on dit que Dieu écoute parfois, en tant que disciple, ce que certains des maîtres disent à son sujet.
Et que pensait Elie Wiesel de l'immense autorité du rabbi sur le hassid?
Ce n'était pas un manque de liberté. C'était, au contraire, c'était un excès de liberté. Je ne joue pas sur les mots. Un chassid qui est venu se soumettre à l'autorité du rabbi, donc à recevoir, à accepter le pouvoir du rabbi, n'a pas renoncé à sa liberté. Mais au contraire, il a dit à son rabbi, enseigne-moi comment m'en servir. Bon, bien sûr, là on peut dire, chaque homme est libre et chaque homme devrait être son propre maître. Mais vous savez, si souvent le rabbi a précisément dit cela à son disciple. Il a dit, tu viens chez moi pour des miracles, pourquoi viens-tu chez moi? Tu ne sais pas prier? Mais prie toi-même. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux prier. Eh bien moi, toi aussi, prie. Tu ne sais pas prier, c'est ça ton problème. Donc très souvent, le rabbi a refusé le rôle du pouvoir qu'il possédait. Or, les rapports qui existent entre le maître et le disciple, on les trouve déjà chez le prophète Élie et son disciple Élisée, ou Élisha. Élisée était là au départ du prophète. Pourquoi? Parce que même la mort, même le départ, faisait partie de l'enseignement que le maître laissait au disciple. Donc quand le maître chassidique s'en va, même sa mort fait partie de l'enseignement qu'il doit léguer à ses disciples. Il ne meurt pas seul. Il y a toujours des disciples qui attendent dehors, ils attendent, et très souvent ils sont présents à l'agonie. Ils décident la prière ensemble avec le maître. La dernière prière, la prière de la mort, qui devient ensuite une prière pour le mort. Et pourtant, la mort chez nous, comme vous savez, nous sommes contre la mort. Nous ne faisons pas le culte de la mort, mais le processus de la mort. Donc le départ, oui, la mort, non. Dès que le rabbi est mort, on n'en parle plus d'ailleurs, vous savez. On fait une légende, on raconte des histoires. Mais dès que le rabbi est mort, avant même qu'il est enterré, déjà on proclame le règne de son successeur. Parce que le mort, même chez Moïse, vous savez, le mort est impur. Car la mort est impure. Le maître le plus sacré, le plus grand, le plus érudit, est important pour nous tant qu'il est vivant. Mais on se souvient de lui, et on l'évoque par la parole. Tenez, vous vous souvenez que le Baal Shem Tov, quand il est mort, à un certain moment, il a dit à ses disciples qui étaient là, regardez l'horloge, quand je mourrai, l'horloge s'arrêtera. Et en effet, l'horloge s'est arrêtée. Depuis, la légende dit que chez les grands maîtres chassidiques, la mort fait arrêter les horloges. Eh bien, croyez-le. Moi j'étais là, j'étais présent, à la mort d'un de mes maîtres chassidiques. C'était un vendredi soir. Et il était vieux, moi je l'ai beaucoup aimé. Ma mère, qui voulait toujours que je sois présent, m'a emmené pour passer le Shabbat là-bas. Et le rabbi était donc alité avec certains de ses proches. Et moi j'étais dehors avec des centaines de fidèles. À un certain moment, là où nous disons le Shema Israël, où nous disons écoute Israël, Dieu est notre Dieu et Dieu est un, pendant que nous le disions, le serviteur du rabbi est sorti et a fait signe que le rabbi venait de mourir en disant cette prière. Et moi, instinctivement, j'ai regardé l'horloge. Eh bien, l'horloge s'est arrêtée. Bon, maintenant je suis un peu plus cynique. Peut-être quelqu'un l'a arrêté.
Quelques instants avant sa mort, Rabbi Wolf de Tsitomir, disciple du Maguid de Meserit, disait « Je vois, un jour viendra et il me fait peur. Le monde perdra sa stabilité et l'homme sa raison. Un jour viendra et il me fait trembler. Tu m'entends ?» demanda-t-il à son serviteur. « Oui, Rabbi, je vous entends. Je te charge de le dire à nos gens. Dis-leur que ce jour-là, nul ne sera à l'abri du doute et de l'angoisse. Ce jour-là, nul ne sera épargné, pas même des hommes comme moi ou toi. Il nous faudra chercher au plus profond de notre être pour découvrir l'étincelle. Tu le leur diras ? Oui, Rabbi. Mais quand ce jour-là arrivera, que devront-ils faire pour ne pas sombrer ? Vous connaissez le remède, Rabbi ? Le malade soupira. Quand ce jour-là arrivera, tu diras à nos gens que je l'avais prévu. Il se tourna contre le mur et rendit son âme.
Je suis resté disciple et je cherche un rabbi que je pourrais admirer et adorer, en qui je pourrais croire. J'aimerais un rabbi aujourd'hui qui m'enseigne l'art de combattre le cynisme et le scepticisme.
De répéter les discours des autres, parce que pour être maître, il faut avoir une bonne mémoire, il faut se souvenir des histoires qu'on a entendues lorsqu'on était soi-même disciple, et il faut savoir apprendre. Alors lui, il y avait une chose terrible, c'est que chaque fois qu'il entendait parler un rabbi, il était tellement enthousiasmé qu'il se mettait à crier et hurler, on était obligé de le sortir de la pièce, ce qui fait qu'ensuite, il ne pouvait pas répéter, parce qu'il n'avait pas entendu.
Toutes les histoires à son sujet sont si belles. Vous savez, une histoire que j'aime, une des plus belles histoires d'ailleurs, chassidique. Vous souvenez, il dit comment je viendrai me présenter devant le tribunal céleste. On ne me demandera pas pourquoi n'as-tu pas été Moïse, ni pourquoi n'as-tu pas été Abraham, ni pourquoi n'as-tu pas été Isaac ou Jacob ou Rabbi Akiva. Mais on me demandera, Zusia, Zusia, pourquoi n'as-tu pas été Zusia?
Zusia refusa le rôle de tzaddik. Zusia, l'éternel perdant, l'enfant éternel, la victime des victimes. Membre de l'entourage intime du Maguid, il fut le seul à ne porter aucune couronne, à ne jouir d'aucune autorité réelle. Les honneurs lui faisaient mal plus que les coups, et les coups, il en recevait tant qu'il ne les sentait plus. Au terme de leur période d'exil, Elimelech, son frère, changea son mode de vie. Zusia, non. À un villageois riche qui leur offrit l'hospitalité, Zusia répondit « Vous nous faites trop d'honneur, merci. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois que nous sommes ici en visite. Nous logeons chez un pauvre fermier qui voyait en nous des fers d'infortune. Pourquoi nous invitez-vous chez vous à présent ? Parce que nous ne sommes plus des vagabonds à pied ? Est-ce la carriole et le cheval qui vous impressionnent ? Invitez le cheval. Nous irons chez le fermier, comme avant. »
Sachez que les grands maîtres hassidiques, les plus grands, sont devenus maîtres sous la contrainte. Ils auraient préféré rester disciples. Car tant qu'on est disciple, on sait qu'on a encore à recevoir et de qui recevoir. Mais dès qu'on devient rabbi, de qui recevoir? On n'a qu'à donner, qu'à donner, à donner. Vous vous souvenez de l'histoire de Rabbi de Kos, qui est une très belle histoire. Il était une fois un juif qui perdit sa tabatière. Il la chercha partout, car il y tenait. Et puis, il était trop pauvre pour s'en acheter une heure. Ne la trouvant pas, il se mit à pleurer. Et tout en marchant, tout en cherchant, il pleurait, pleurait. Ainsi, sans s'en rendre compte, il arriva dans la forêt. Là, il tomba sur l'être le plus étrange et le plus généreux du monde, un bouc sacré, qui parcourait les routes du temps et de l'univers en attendant minuit. Car à minuit, il touchait le ciel avec ses cornes immenses, réveillant les étoiles et les incitant à chanter la gloire de ce qui est éternel. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda le bouc. Le juif lui répondit la vérité. « J'ai perdu ma tabatière. » Ce n'est que cela, c'est un le bouc, rien de plus simple. C'est stupide de pleurer. Je t'aiderai, moi. Tu as un couteau sur toi, oui, sors-le. Et maintenant coupe-moi un morceau de corne, tu en feras une tabatière. Le juif ne se fit pas prier, et quand il revint au village, les gens s'émerveillèrent. Son tabac avait l'odeur du paradis. On le harcela de questions, et il dut révéler qu'il avait changé, non de tabac, mais de tabatière. Et il dut tout le raconter. Alors tous les villageois prirent leurs couteaux et se précipitèrent vers la forêt où ils trouvèrent le bouc le plus aimable et le plus sain du monde. Ils se mirent à lui tailler les cornes qui rapetissaient à vue d'œil et disparurent tout à fait. Aussi le soir même, à minuit, le bouc sacré ne pouvait plus toucher le ciel pour réveiller les étoiles et les faire chanter. Il ne pouvait plus que les regarder de loin avec nostalgie et un peu de remords. « Je te défends de m'appeler Rabbi !» cria le Rabbi de Kotsk. « M'entends-tu, je ne suis pas Rabbi !» Voilà la tragédie du Rabbi, quand il sent que tout le monde lui prend. On ne vient que pour prendre. Il donne, il se donne, et à un certain moment il se demande « Mais d'où vais-je prendre quelque chose ? Qui donc va me donner à moi ?»
Pierre-Yves Le Prince et Jacqueline Taous. Réalisation Michel Abgrave.